the... Le texte pour ce dimanche. Donc ça, c'est le texte de la prédication, hein, Alain. Matthieu 13, verset 1 à 17. Ce même jour, Jésus étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer. Une grande foule de peuple s'assembla vers lui, en sorte qu'il monta dans une barque, il s'y assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes. Et il leur parla ainsi. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. L'autre partie tomba sur des endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée parce qu'elle n'avait point de racines. Elle sécha. L'autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent. Et l'autre partie tomba dans une bonne terre et rapporta du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour ouïr entende. Alors les disciples s'étant approchés lui dirent « Pourquoi leur parles-tu par des similitudes ?» Il répondit et leur dit « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. Car on donnera à celui qui a déjà. Il y aura encore davantage. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous verrez de vos yeux et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils ont ouï dur de leurs oreilles, ils ont fermé les yeux afin qu'ils n'aperçoivent pas de leurs yeux, et qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent pas du cœur, et qu'ils ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. Mais pour vous, vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Car je vous le dis en vérité, plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Et d'entendre ce que vous entendez ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la similitude du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume de Dieu et qu'il ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. Celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux. Celui qui entend la parole et qui la reçoit d'abord avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même. C'est pourquoi il n'est que pour un temps. Et lorsque l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Nous savons tous que la parole de Dieu a un pouvoir. Ce que nous avons entendu dans Ésaïe 55, c'est très beau, ce pouvoir de la parole qui ne remonte pas vers Dieu. Une fois qu'elle est sortie de Dieu, elle ne remonte pas sans avoir produit de la nourriture. Jésus est cette nourriture que cette parole produit dans ce monde. Il est sorti de la terre pour que nous puissions manger aujourd'hui son corps, que nous puissions boire son sang. Ça, ce ne sont pas des allégories, ça. C'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre ces choses. Et quand nous avons compris ces choses, nous avons une responsabilité. Et on peut avoir compris et avoir oublié. C'est ce que Jésus nous dit ici. Ou ça peut disparaître. Mais Dieu est fidèle, heureusement. Il a fait sortir d'en haut son propre Fils pour qu'il vienne sur cette terre. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, dit plein de choses qui aident à comprendre cette parabole. Il y a beaucoup de liens entre Jean, chapitre 12, et le texte que nous avons entendu. Jésus est très troublé dans Jean, chapitre 12, c'est-à-dire il est entré dans Jérusalem. Ça y est, on l'a acclamé comme le roi d'Israël. Il est au summum de la gloire. La foule l'a accueilli et parle tout d'un coup de lui comme d'une graine qui doit mourir. Il va enfouir cette gloire qu'on lui a attribuée. Il veut qu'elle soit dans le sol. Nous avons toujours une fausse vision de la gloire de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous la révèle. Nous, tout ce qu'on a pu faire, c'est de le crucifier. Mais c'est sa gloire, justement, d'avoir été crucifié, de pouvoir nous rejoindre dans nos refus. Car ce que souligne Jésus dans cette similitude, c'est qu'on entend et on n'entend pas. On voit et on ne voit pas. C'était déjà annoncé par le prophète Ésaïe, ça. Quand Ésaïe a vu la gloire de Jésus, il n'avait pas assez de mots pour décrire. C'était sur un trône élevé dans le temple, et les pans, juste simplement les pans de sa robe remplissaient le temple, et il y avait des séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur !» Le puissant, le tout-puissant, la plénitude de la terre, c'est sa gloire. Dieu est celui qui crée la vie de la terre, la vie de la nature, la création. Il est à la fois le créateur et le sauveur. Et ne pourrait pas être le sauveur s'il n'était pas le créateur, celui qui a créé toutes choses en fonction du salut qu'il a apporté sur cette terre. Et tout ça, nous pouvons en faire une idolâtrie. Car cette parole que Dieu a envoyée, pouvons-nous en faire une idole, voilà, ça marche tout le temps, ça marche tout le temps. Ben non, ça ne marche pas tout le temps. Et Jésus donne des raisons, des explications pour que ça ne marche pas tout le temps. Mais ce que je veux d'abord remarquer avec vous, c'est l'étendue de ce geste du semeur. Il jette partout. Je crois que nous, chrétiens, qui avons l'habitude de venir ici dans ce temple, nous sommes mis des œillères sur l'œuvre de Dieu dans ce monde. Et Dieu sème partout. Un des plus grands réveils qu'il y a eu ces dernières années. Vous savez où ça se passe? En Iran. 2 millions de musulmans ont rencontré Jésus là-bas. J'aimerais bien qu'il y en ait 2 millions en France qui rencontrent Jésus et qui, au péril de leur vie, témoignent de cette rencontre. Nous voyons là une loi du royaume. Je vous ai dit que Jésus, au moment où il est au sommet de sa gloire, il parle de lui dans Jean 12 comme d'un grain qui doit mourir. Un grain de blé qui doit mourir. Pour porter du fruit. S'il se rapproche le plus de cette affirmation, c'est l'amour. Connaissons tous ces histoires d'amour. Où on aime tellement qu'on donne sa vie. Personnellement, j'ai vu des choses qui sont généralement dans les romans, mais moi j'ai vu des choses réellement. La passion amoureuse peut conduire deux personnes à se suicider ensemble. On ignore, la plupart des gens échappent à ces passions qui vont très très loin. Mais l'amour peut faire des choses comme ça. Mais ça aboutit à la mort. Et l'amour de Dieu, qui va jusqu'à se donner, n'aboutit pas à la mort. Passe par la mort pour nous donner la vie. Et nous rend capables de ce même amour. L'apôtre Jean, dans son épître, il dit, si Dieu nous a aimés comme ça, alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et Jésus, il dit, si vous voulez demeurer en moi, ça c'est dans l'évangile de Jean, si vous voulez demeurer en moi, si vous voulez m'aimer, aimez-moi. Donc c'est pas ça, il n'a pas dit ça. Si vous voulez m'aimer, il faut m'aimer. Si vous voulez m'aimer, va voir ton frère. Si tu veux vraiment aimer, moi, Jésus, si tu veux m'aimer, m'aimez-moi. Écoute ce que j'ai dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donnez sa vie pour les frères. Ça, c'est le commandement de Jésus. Donc la vie produit de la vie et passe par la mort. Et quand Jésus dit, au moment où il a, au sommet de sa gloire, qu'il se compare, qu'il parle de lui-même comme d'un grain qui doit mourir, pour porter du fruit, beaucoup, 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 il dit, la phrase suivante, c'est, vous verrez dans Jean 12, la phrase suivante, si quelqu'un aime sa vie dans ce monde, il la perd, il la perdra. Et si quelqu'un hait
sa vie dans ce monde, il la gardera pour la vie éternelle. Nous avons le choix d'aimer notre vie dans ce monde et de la perdre. C'est ce choix que nous faisons assez souvent, les trois quarts du temps, je dirais. Parce que c'est dans la parabole qu'on a lu dans Matthieu 13, les soucis de ce monde, la séduction des richesses. Ça peut pas, c'est pas forcément que les richesses matérielles, ça peut être la culture, l'art, la science, devenir célèbre, la séduction de toutes les richesses culturelles matérielles qui existent dans ce monde, briller dans ce monde, ben ça peut nous perdre. Celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra. J'ai peur, moi, de banaliser ce que Jésus a enseigné et il a fait. Vous considérez ça comme quelque chose qu'on est habitué. On ne devrait jamais être habitué au message de l'Évangile, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de nos pensées. Comme le prophète Ésaïe, ce n'est pas de nos pensées dont nous parlons, c'est la pensée de Dieu qui s'est réalisée en Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, dans cette parabole de Matthieu, qu'il y a beaucoup, beaucoup de prophètes qui voulaient voir ce que vous voyez, et ils n'ont pas vu. Mais heureux vos yeux, parce qu'ils voient ce que des générations avant vous voulaient voir, n'ont pas vu. Je prêche avec beaucoup de conviction, mais ce n'est pas ça qui doit vous convaincre, c'est le texte. C'est la parole de Jésus. La parole de Jésus, elle vous accompagne chaque jour. Jésus est en train de sortir tout le temps. Tout le temps il sort. Il sort de chez son Père, tout le temps. Il ne faut pas dire qu'il est juste à la droite de Dieu, comme ça il est tranquille, il n'a plus besoin de s'associer à toutes nos misères. Il est à la droite de Dieu, ça y est. Mais c'est pour nous qu'il est là-bas. Pour nous distribuer ce qu'il y a de là-haut, pour nous distribuer la vie, l'amour, la grâce, le Saint-Esprit, la lumière, l'intelligence, pour connaître qui est Dieu, qui est notre Père, pour toujours. Des choses inouïes. Nous sommes obligés de vous prêcher, ceux qui viennent ici prêcher, des choses inouïes que nous ne pouvons même pas nous-mêmes imaginer, mais que le Saint-Esprit va nous faire comprendre. Car la parole de Dieu, je le répète, Jésus dit, le semeur, il jette comme ça, là-bas, il y en a qui tombent dans les ronces. Là-bas, il y a pas mal de ronces à côté du temple, d'ailleurs, vont bientôt bouffer tous nos géniférus, là. Ils jettent, même là-bas dans les ronces, là, à côté du temple, ils jettent. Ils jettent aux endroits les plus improbables. On a des récits de conversion ici en France, de personnes. On se demande, mais comment ils ont rencontré Jésus? Les évêques, quand ils disent les témoignages des personnes qui ont demandé le baptême à la nuit de Pâques, ils disent, mais c'est un miracle, ils n'ont jamais eu de catéchisme, ils ont découvert Jésus. Oui, Dieu agit aujourd'hui. Ne soyons pas nous étrangers à ce que Dieu est en train de faire. Préparons-nous à vivre quelque chose de grand. Encore ici en France, quand Dieu a donné des choses inouïes en France. Je ne connais pas un autre pays où une jeune femme chrétienne a pris en main l'armée française elle-même pour mettre dehors les Anglais qui ont divisé la France, se sont accaparés une grande partie de la France. Elle a suivi la voie qu'elle entendait. La voix du Seigneur Jésus lui-même. Et quand elle a été jugée, condamnée à mort et brûlée vive, elle avait des réponses qui stupéfiaient ces juges. Il y avait des évêques dans les juges, des hommes d'église. C'était stupéfait. On posait des questions pièges. Comment Jésus, on a posé des questions pièges? Il fallait vraiment être d'une intelligence supérieure pour pas tomber dans le piège. Par exemple, une question qu'on lui a posée à Jeanne d'Arc: êtes-vous en état de grâce? Question piège. La réponse: si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que j'y reste. Mais je termine avec ça. Que ce soit vraiment la parole de Dieu qui vous accompagne chaque jour, car elle est semée, il n'y a aucun doute. Elle est puissante. Elle est puissante. Je vais peut-être quand même terminer avec cette pensée que n'ayez pas peur de celui dont parle Jésus, qui comparait dans la parabole aux oiseaux, qui viennent enlever la parole. Du coup, elle n'y est plus. Parce que dans l'évangile de Jean, Jésus, après avoir parlé de lui-même comme d'une graine qui va mourir pour porter beaucoup de fruits, 4 chapitres plus loin, dans Jean 16, il dit: maintenant qu'il va mourir, a lieu le jugement du prince de ce monde. Il a été jugé. Celui qui est notre ennemi, c'est l'esprit mauvais qui a déjà été jugé. Il a déjà été jugé. Alors, n'allons pas au-devant des combats spirituels en imaginant que là, il va falloir déployer toute l'énergie qu'on a, toute la foi qu'on a. Non, il a déjà été jugé. Et c'est le pire ennemi qu'on puisse imaginer, le diable. C'est le pire. C'est rien du tout. L'opposition ou la haine des êtres humains ou d'un animal, je ne sais pas, c'est rien par rapport à la haine que nous voue le diable. Mais il a déjà été jugé. Le Saint-Esprit t'a envoyé en permanence par le Seigneur Jésus du haut du ciel pour nous faire découvrir cette vérité: quand Jésus, le prince de ce monde, a déjà été jugé. Et nous n'avons pas à le craindre. Nous avons à laisser la parole de Dieu, ça c'est une parole de Dieu, continuer son œuvre en nous. Et elle aura le dernier mot.